France Culture, les matins d'été, Julie Gacon.
Ils avaient été si souvent les maîtres qu'ils ne pouvaient imaginer que d'un bout du continent à l'autre, les chiens fidèles devinrent soudain une meute enragée, écrivait Romain Gary dans Les Mangeurs d'étoiles, où il décrivait une dictature sud-américaine et son dirigeant qu'il appelait Almayo. Au Nicaragua, Daniel Ortega fut si souvent le maître que, etc. Les organisations de défense des droits de l'homme parlent d'ores et déjà de 450 personnes tuées lors des manifestations qui foulent depuis quelques semaines ce petit pays de plus de 6,5 millions d'habitants en Amérique centrale, dont on ne parle plus. Il était pourtant l'un des points chauds de la guerre froide et où il est soudain question de bastions rebelles, de paramilitaires et d'étudiants retranchés dans des églises. Bonjour Gilles Bataillon.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'EHESS où vous travaillez particulièrement depuis plusieurs années sur le Nicaragua. Merci d'être avec nous. Vous travaillez depuis longtemps sur ce pays, contrairement à nous, donc vous avez vu les choses venir, vous avez entendu sourdre la menace. Comment ça a commencé?
Les premières protestations ont commencé lors de la réélection d'Ortega en 2011, qui a été une réélection frauduleuse.
Pourquoi frauduleuse?
Frauduleuse parce que la constitution nicaraguayenne interdit à un président d'être plus de deux fois président de la République. Et un président sortant ne peut se représenter pour briguer un nouveau mandat, ce qui fait deux bons motifs de ne pas se représenter. Et des protestations ont commencé à ce moment-là. À ce moment-là est arrivée aussi une affaire très importante dont on a un peu parlé, qui est une concession canalière insensée à un consortium chinois pour construire un autre canal plus large que le canal de Panama. Et c'est articulé au projet des Chinois de reconstruire le port de Mariel à Cuba pour de là dispatcher des marchandises dans toute la Méditerranée américaine.
Et ça fait réagir.
Ça fait réagir les paysans expropriés. Et il y avait des groupes qui protestaient contre la réélection d'Ortega et des paysans qui protestaient contre le canal qui, les uns et les autres, ont commencé à être poursuivis par la police, brutalisés, arrêtés, particulièrement dans les milieux paysans. La réélection de 2016 a reprovoqué des heurts, pas des heurts massifs, et dans les deux cas, la communauté internationale a regardé de côté. Et ce qui a vraiment déclenché des choses nouvelles, c'est ce qui s'est passé en début d'année, où la présidente, la vice-présidente, la femme de Daniel Ortega, Rosario Murillo, a voulu contrôler les réseaux sociaux en disant on tient des propos licencieux et déplaisants là-dessus, donc il faut les contrôler. Première manifestation de la jeunesse. Il y a ensuite eu un incendie dans une réserve écologique extrêmement importante du pays où le gouvernement a tardé à envoyer des pompiers, à refuser l'aide internationale et les étudiants sont à nouveau sortis protester en se faisant joyeusement matraquer. Et ce qui a été la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres, enfin qui a fait déborder le vase plus exactement, ça a été la proposition d'Ortega de réformer la sécurité sociale qui est en faillite et qui est en faillite parce que elle a été non seulement mal gérée, mais qu'il y a eu des détournements de fonds absolument incroyables par ceux qui la géraient. Et là, les gens sont sortis dans la rue, et ils sont sortis dans la rue en tellement grand nombre qu'à la fois Ortega a envoyé tout de suite la police anti-émeute et des groupes de choc du front qu'on appelle les Turbas, casser les manifestations. Il y a eu les premiers morts, et ça a soudé une opposition complètement hétéroclite contre le pouvoir.
Donc l'expression que vous employez, que cette réforme a mis le feu aux poudres, était adaptée. On parle pour l'instant de 450 morts et de plus de 2000 blessés ainsi que des centaines de disparus. Qui tient ce décompte macabre du nombre de morts dans le rang des manifestations? Qui est cette association nicaraguayenne pour les droits humains?
Alors il y a deux associations qui font un travail très important. L'une qui vient des rangs des sandinistes, qui est le centre, le Cénit de Vilma Núñez, et une autre association qui a été liée autrefois à la Contra et qui avait été créée pour faire toute la lumière sur les crimes de la Contra et que les Contras cessent de pratiquer ces crimes de guerre. Et ensuite, cette association, une fois que les sandinistes ont perdu le pouvoir, est rentrée au Nicaragua et est devenue une association des droits de l'homme qui a continué son travail sous le mandat de Violeta Chamorro.
Vous avez vous-même des contacts à Managua? Vous avez des nouvelles qui sont vos informateurs sur place?
Alors, il y a des gens que je connais qui travaillent au Nicaragua depuis longtemps. Puis j'ai commencé à travailler sur le Nicaragua dans les années 80. Donc, je connais toute une série de gens à Managua, je les appelle, je regarde les réseaux sociaux, je lis les journaux nicaraguayens, et disons aujourd'hui, on est dans une situation beaucoup plus facile pour s'informer que dans les années 80. Dans les années 80, quand Daniel Ortega censurait le grand quotidien d'opposition, La Prensa, et fermait les radios d'opposition, il fallait absolument être sur place pour savoir des choses. Aujourd'hui, il ne peut pas boucler l'information, ce qui lui cause des dommages considérables.
Donc il y a une presse libre. Et pourquoi il ne peut pas boucler l'information comme ça se fait si facilement ailleurs ?
Parce qu'il y a des protestations très importantes. Il a d'ailleurs bouclé l'information à quelques reprises au moment de ces manifestations en censurant certains journaux, en interdisant d'émettre à certaines radios et en menaçant, en envoyant ces groupes de choc casser la figure à des journalistes prestigieux. Mais si vous voulez, par exemple, la chose la plus étonnante c'est, et monstrueuse, c'est la façon dont un journaliste a été tué en couvrant les manifestations à Bluefield sur la côte atlantique nicaraguayenne. Il y a quelqu'un qui a filmé ça, ça a été mis sur les réseaux sociaux et on ne pouvait pas ne pas voir ça.
Sa mort a été attribuée par les manifestants aux paramilitaires proches du pouvoir, mais les autorités l'ont imputée à deux habitants de sa ville d'origine. En tout cas, les journalistes manifestent aujourd'hui au Nicaragua aussi pour la liberté de la presse et pour demander la fin des agressions du pouvoir. Donc il y a quand même une tentative d'intimidation.
Il y a une tentative tout à fait réelle d'intimidation du pouvoir. Et dès qu'Ortega est revenu au pouvoir en 2006, dès 2008, il a commencé à persécuter la presse indépendante, en particulier un média qui a été créé par d'anciens sandinistes, en particulier par Sofia Montenegro et Carlos Fernando Chamorro, et qui l'a accusé de lavage d'argent sale.
Pour l'instant, la presse internationale et notamment française envoie des journalistes aujourd'hui voir ce qui se passe au Nicaragua, confère par exemple un grand article du Monde, un reportage dans le quartier El Carmen à Managua, donc où se situe la maison du président. La ville est en état de siège. Un contexte historique, racontez-nous Gilles Bataillon. Nous sommes au Nicaragua à la fin des années 70. Une contestation populaire est en train de naître sur le modèle de la révolution cubaine, mais le Che est déjà mort depuis 10 ans et cette fois il n'a pas ressuscité puisqu'il se faisait tuer régulièrement, comme écrivait Romain Gary. Qui est alors Ortega ? Comment va-t-il prendre part à ce mouvement et contre quoi ?
Jusqu'à 78, le Front sandiniste est un mouvement de guérilla qui piétine. Et ce qui va le relancer...
Il faut déjà rappeler ce qu'est le mouvement sandiniste, d'Augusto Sandino.
Le mouvement sandiniste, c'est un mouvement qui reprend le nom d'un guérillero qui a pris les armes pour protester d'ailleurs contre un traité canalier qui ressemble fort à celui d'Ortega avec les Chinois et pour protester contre la présence américaine au Nicaragua dans les années 30. Et donc le Front sandiniste, qui est un des nombreux mouvements de guérilla qui se crée dans les années 60 à l'image de la révolution cubaine, prend très vite le nom de Front sandiniste de libération nationale. Mais le Front, dans les années 70, est éclaté en trois tendances rivales et il piétine. Et ce qui va le relancer et lui donner une force nouvelle, c'est l'assassinat du grand journaliste d'opposition, Pedro Joaquín Chamorro, en 78, qui va souder le patronat contre Somoza et qui va faire que l'Église se détache du régime. Et là, les gens vont dire, il faut composer avec le Front, qui a des groupes armés, et le Front va recevoir une aide extrêmement importante du Costa Rica, qui va lui permettre d'installer ses sanctuaires pour lancer des attaques au Nicaragua, et il va recevoir de l'argent, de façon très importante, du Venezuela, de l'Action démocratique de Carlos Andrés Pérez, et du Panama d'Omar Torrijos. Et peu à peu, Somoza va être isolé sur la scène internationale, et l'autre chose absolument capitale qu'on ne mentionne pas assez, c'est la politique de Carter, de défense des droits de l'homme, qui suspend son aide à Somoza.
Donc Daniel Ortega et ses troupes, parce que je ne sais pas quelle place il occupe lui dans ce mouvement.
À l'époque, il est un des 9 dirigeants de la direction nationale du Front sandiniste et il est, comme tout le monde le dit à l'époque, le plus gris et le moins charismatique de ses dirigeants. Et c'est pour ça que son frère va réussir à l'imposer aux autres commandants comme l'un des membres de la junte de gouvernement de reconstruction nationale. Et c'est à partir de là que Ortega va monter en force et va très tôt être un apprenti dictateur.
Voilà, jusqu'en 1990, date à laquelle il est écarté du pouvoir, il perd les élections, il est réélu en 2006. Voilà, vous disiez qu'il avait été réélu frauduleusement. Aujourd'hui,
il est réélu frauduleusement en 2011. En 2006, la réélection est légale.
Voilà, en 2011, quand aujourd'hui le leader de la coordination destination universitaire dit que le régime s'est accaparé tous les pouvoirs politiques, judiciaires, économiques, médiatiques et syndicaux. Que veut-il dire, syndicaux ?
Ça veut dire qu'il a phagocyté les organisations syndicales et que c'est les centrales sandinistes qui occupent tout l'espace et que les autres centrales ne sont pas reconnues, c'est persécutées.
Il a aussi, paraît-il, essayé de se mettre dans la poche tous les patrons, mais qui aujourd'hui se retournent contre lui.
Alors, les patrons se retournent contre lui exactement. Et si vous voulez, ce qui est très impressionnant, c'est comment, 40 ans après, on voit se constituer un front antidictatorial qui ressemble à celui qui s'est constitué contre Somoza. À cette différence près, c'est que les gens qui sont dans une tentative de révolution démocratique contre Somoza sont dans une action qui est grosso modo non violente.
Mais qui sont-ils ? Qui sont ceux qui contestent ? La comédienne et cinéaste Florence Jauget, qui est installée au Nicaragua depuis 25 ans et qui a été longuement interviewée par Mathieu Laurent sur le site de France Culture, parle d'une insurrection civique qui n'a pas de chef, un soulèvement dans lequel il n'y a aucun parti, une coalition de personnes qui se disent autoconvocadas, autoconvoquées.
Si vous voulez, vous avez vraiment des jeunes qui se sont convoqués par les réseaux sociaux en dehors de toute structure organisative forte, et vous avez derrière des multiples petites organisations de la société civile, les organisations des droits de l'homme, des collectifs féministes, des collectifs d'étudiants qui ont délégué certains d'entre eux et qui ne veulent pas de négociations avec les politiciens avec lesquels négociait d'habitude Ortega, et Ortega veut faire inclure dans le dialogue national ce dont ne veulent pas les participants, un ancien politicien corrompu avec lequel il a été en alliance pour revenir au pouvoir en 2006, qui est un personnage aussi corrompu et aussi pourri que lui, qui est Arnoldo Alemán, qui a été président du Nicaragua.
Daniel Ortega qualifie les manifestants de putschistes, sa femme parle de terroristes, sa femme Rosario Murillo, qui était-elle avant de devenir vice-présidente ?
Rosario Murillo, elle n'était rien. C'est-à-dire, elle a été quelqu'un qui a essayé de tailler des croupières à Ernesto Cardenal, qui était le ministre de la culture de la révolution sandiniste, et elle s'est rendue célèbre par ses bagarres contre Cardenal, mais elle n'était pas grand-chose. Elle s'est rendue célèbre quand elle a quitté son ministère en 90, tous les tableaux qui y étaient, elle les avait volés. Et ensuite, elle s'est rendue célèbre parce que quand sa fille a dénoncé les viols répétés de son beau-père, elle a pris le parti de sa fille, ce qui lui a permis de rentrer en cour auprès d'Ortega.
Non, elle a pris le parti, non, d'Ortega.
Elle a pris le parti, pardon, ouais. D'Ortega.
Elle a dit que sa fille était mythomane.
Elle a dit que sa fille était mythomane. Ouais. Elle a pris le parti d'Ortega, ce qui lui a permis de rentrer en cour auprès d'Ortega, de prendre un rôle très important au front, ce qui exaspère plus d'un militant du front. Et c'est comme ça qu'elle est devenue à la fois une ordonnatrice très importante de la politique lors du premier mandat de 2006 à 2011 d'Ortega. Quelqu'un qui est sa vice-présidente depuis les élections de 2016.
Mais si elle exaspère même des militants, des membres du Front, qui aujourd'hui soutient encore Daniel Ortega ? S'il est encore là, c'est aussi parce que beaucoup le considèrent comme peut-être le meilleur président d'Amérique latine.
Alors, il a été au début vu comme un symbole de stabilité par le patronat et par les secteurs les plus conservateurs de l'Église qui sont partis, et certains et même partis ad patres, qui est l'ancien cardinal archevêque de Managua, qui a été le grand artisan de l'alliance des secteurs les plus conservateurs de l'Église avec Daniel Ortega. Mais aujourd'hui, il y a des sondages, et quand on voit ce qui se passe, on peut les considérer comme fiables. Vous avez 8 à 10% de la population nicaraguayenne qui sont des sandinistes durs et qui sont des partisans de Daniel, quoi qu'il se passe, et vous avez une vingtaine de pourcents en plus de gens qui sont des sandinistes intéressés. C'est-à-dire des gens qui bénéficient, ou qui bénéficiaient parce qu'elles ont beaucoup diminué, des largesses du parti État et de toute une aide qui est distillée par les communautés populaires citoyens, c'est-à-dire une assistance qui est donnée selon des critères politiques.
Quel rôle joue aujourd'hui l'Église catholique au Nicaragua ? Est-ce que vous les avez vus ? Est-ce qu'on vous les a racontés, ces scènes de repli des manifestants dans les églises avec la police qui approche ?
Alors, l'Église a toujours été considérée au Nicaragua comme l'espèce de colonne vertébrale morale de la société. Et en cas de trouble, c'est un peu elle qui a le dernier mot sur la situation. Enfin, c'est ce qui s'est passé lors de la Révolution, où Monseigneur Obando, l'archevêque de Managua, a dit contre Somoza, qui est un péché majeur, des péchés mineurs seront commis dans l'insurrection et ils sont pardonnés d'avance. Et là, d'une certaine façon, l'Église prend une voie un petit peu comme ça. C'est-à-dire que les églises ont été non seulement profanées parce qu'on est venu y arrêter des gens, mais il y a des gens qui ont été souillés des hosties pour offenser les croyances, qui est très mal vécue au Nicaragua. Et il y a 10 jours, l'Église a appelé, alors que Ortega l'enjoignait de rompre avec des sectes sataniques et putschistes, elle a appelé aux jeûnes et à la prière d'exorcisme pour lutter contre ces profanations. Et d'une certaine façon, elle retourne contre Ortega l'image d'un Satan, d'un diable, d'un antéchrist. Et elle mobilise en brandissant l'image d'un Ortega qui représente une figure de la barbarie, ce qui est assez juste, mais elle emploie pour faire ça un langage qui est à la fois politique et théologique, et c'est très important.
Et donc la police qui enserre les églises dans lesquelles se sont réfugiés les manifestants, la police et l'armée n'ont pas le même rôle, en tout cas l'armée dit ne pas vouloir intervenir. Alors, mais
l'armée pour le moment n'est pas intervenue, et d'une certaine façon l'armée voit à plus long terme que la police, qui est complètement dépendante d'Ortega et qui a été complètement réorganisée par Ortega, c'est que l'armée sait que si jamais Ortega tombe, alors elle sera réorganisée et purgée. Je pense que les gens tentent de se préserver comme une institution indépendante pour la présidence d'après, et disons, c'est aussi un signe du fait qu'il ne donne pas forcément très cher du sort d'Ortega à terme. Et d'ailleurs, Ortega a reculé sur des choses très importantes. Il a retiré sa retraite, il a proposé aux États-Unis à la mi-mai d'avancer des élections avant de se lancer dans une répression féroce contre les gens qui tenaient un certain nombre de quartiers et de routes en paralysant l'activité du pays. Et maintenant, il a fait des entretiens à Fox News et sur Télésour en disant que il ne céderait en rien et que ceux qui voulaient son départ étaient des putschistes. Mais il est dans une situation très fragile et il est un pragmatique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui à la fois a un discours d'une dureté féroce et qui en même temps est parfaitement capable de négocier et de partir. C'est en ça que les pressions internationales sont capitales.
Gilles Bataillon, quand vous avez commencé à vous intéresser à ce tout petit pays d'Amérique centrale, c'était dans les années 80, ça ne passionnait déjà plus les intellectuels
non,
à l'époque.
Dans les années 80, c'était au contraire la grande passion des intellectuels. Si vous voulez, les gens qui avaient été enthousiasmés ou qui avaient milité pour les peuples d'Indochine contre l'intervention américaine, après les Boat People, se sont scindés en deux groupes, d'une certaine façon. Il y a des gens qui se sont passionnés pour l'aventure du Solidarnosc et qui ont été appuyés Solidarnosc, sans d'ailleurs beaucoup s'interroger sur ce qu'était le régime vietnamien et le régime cambodgien. Et il y en a d'autres qui ont appuyé le régime sandiniste, qui représentait une utopie révolutionnaire, qui venait parfaitement se substituer à ce qui s'était passé en Indochine. Et du coup, il n'y a eu aucune réflexion là-dessus. Et quand, à l'époque, j'ai pu faire un premier article dans Esprit en 83, que j'avais intitulé « Nicaragua, de la tyrannie, c'était celle de Somoza, à la dictature du parti totalitaire, c'était celle des sandinistes », ça a été le tollé. Et en même temps, ce qui est très amusant, c'est que ce que j'ai écrit à l'époque, des sandinistes dissidents, ensuite, l'ont écrit en large et en travers dans leur mémoire.
Donc vous aviez pressenti que déjà les germes d'une future dictature, en tout cas, étaient là, dès 84.
Si vous voulez, ce à quoi on a assisté au tout début de la révolution sandiniste, qui était au départ un projet pluraliste et non aligné, ça a été une tentative du front de mettre la main sur les institutions du pays, d'encadrer la société et de donner un tour totalitaire au sens que des gens à Rennes, comme Arendt ou Lefort, donnent au terme au projet révolutionnaire nicaraguayen. Et c'est ce que j'ai voulu analyser. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient prêts à entendre ça.
Et donc, pour évoquer en deux mots, vous et votre passion pour le Nicaragua, avant vous faisiez de l'anthropologie classique, si j'ose dire, et vous êtes mis à faire de la sociologie politique, bien obligé en fait dans ces pays.
Si vous voulez, j'ai été scandalisé par la façon dont on parlait de transfert forcé de population indienne, les miskitos, que je ne connaissais pas à l'époque. Et du coup, je suis devenu un ethnologue des miskitos, et pour comprendre ce qui se passait en Mosquitia dans les zones indiennes, je me suis dit qu'il fallait aussi travailler sur la révolution sandiniste. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la sociologie politique.
Et peu à peu, l'intérêt des Occidentaux, en tout cas, s'est complètement détourné du Nicaragua.
Complètement. Et disons, beaucoup de gens m'ont dit en rigolant, mais pourquoi tu continues à travailler là-dessus? Et du coup, moi, j'avais noué des amitiés avec des gens au Nicaragua et j'ai eu à cœur de continuer à suivre ce qui se passait.
Eh bien, vous restez avec nous, Gilles Bataillon. Nous ferons un dézoom sur le continent sud-américain où la crise économique sévit à nouveau et où, ici et là, les régimes en place semblent se durcir. Pas partout, évidemment, pas à tous à la mode nicaraguayenne. À tout de suite.